qu'est-ce que le 8 mai ? Pour moi, enfant, c'était un lieu où j'allais seule ou accompagnée de mon jeune frère. Deux enfants du mercredi dans les années 80 qui faisaient la queue pour un billet d'entrée à la piscine du 8 mai à Vitry-sur-Seine. Le 8 mai évoque cette place et notre élan du mercredi pour aller s'essayer au plongeoir afin de vaincre notre peur. C'était un très haut plongeoir où l'on passait notre corps et qui s'inclinait pour nous jeter à l'eau. Les enfants des années 80 étaient assez autonomes. À partir de 7-8 ans, souvent nous étions déjà dans la rue à nous retrouver ou pas, parfois à nous bagarrer. La rue, c'était notre espace de jeu, sans trop de surveillance. C'était la liberté, l'apprentissage de la vie aussi. Le 8 mai évoque donc cette piscine, ces deux bains et la patinoire d'à côté où ne manquions pas d'aller glisser aussi. Mais bien sûr, lorsqu'on est plus grand, et même bien plus grand, qu'on a des cheveux blancs, on comprend bien que le 8 mai est avant tout une victoire, celle qui mettait fin à la Seconde Guerre mondiale et à la tentative de faire plier le monde sous l'empire d'une dictature. Mon parrain en parlait parfois. L'Allemagne hitlérienne avait attaqué et voulait étendre son empire autoritaire par la force. L'Italie, le Japon l'avaient rejointe dans son projet d'anéantissement. Il formait ce qu'on appelait l'Axe. La Pologne avait cédé, la France aussi, et l'envahisseur occupait ses nouveaux territoires. Ainsi, une partie de la France était occupée par l'armée allemande et une autre partie de la France était encore libre. La France était coupée en deux. Les Français fuyaient le territoire occupé. C'était l'exode. Ils partaient avec presque rien, pensant seulement à échapper à la soumission demandée par l'ennemi, à sauver leur peau et celle de leurs enfants. Immédiatement s'est organisée une résistance, faite d'individus non résignés à laisser leur pays entre les mains des Boches. C'est ainsi qu'on appelait l'envahisseur. Même si la France était déjà en partie tombée, il formait de ci de là des petits groupes d'hommes et de femmes, même des adolescents, qui allaient donc saboter des lignes de chemin de fer, faire de la contrebande pour nourrir notamment les Français qui mouraient de faim, aider certaines familles à passer en zone libre ou au pays neutre. Éliminer leurs ennemis pour regagner leur république était leur but suprême. Ils se moquaient de perdre leur vie pour cette raison. Beaucoup de résistants furent d'ailleurs torturés, tués, mais les groupes continuaient à se battre pour la France libre. Ils n'étaient pas majoritaires en nombre, mais ils incarnaient la France. L'État français, avec à sa tête le maréchal Pétain, sa police française, sous l'emprise allemande, collaborait avec l'armée hitlérienne. Ils étaient devenus aussi impitoyables que l'envahisseur. Beaucoup de Français s'étaient résignés. Ils étaient vaincus. Alors, beaucoup ont collaboré avec les Allemands, souvent par peur, dénonçant alors leurs voisins parce qu'ils étaient des résistants, ou juifs, ou avaient la peau noire, ou étaient homosexuels. Les Français se battaient donc aussi contre les Français. Le général de Gaulle, un grand militaire français, à partir de l'Angleterre, a appelé par radio à lutter contre l'Allemagne hitlérienne. De nombreux Français écoutaient secrètement les ondes venues d'Angleterre. Peu à peu, autour de lui, se sont unis les petits groupes de résistants qui luttaient, formant la résistance française, appelée aussi l'armée de l'ombre. Jean Moulin, un ancien préfet qui n'a pas suivi l'État français de Pétain, a contribué à cette union. Cette armée était constituée de simples citoyens, de tout horizon, une armée improvisée. Mon parrain, qui avait 14 ans à la sortie de la guerre, me disait souvent « C'est lors de l'amnistie que soudainement les Français sont devenus des résistants. » Il déclarait cela avec plein d'humour et de tendresse envers ses concitoyens, se moquant de la condition humaine qui fait trop souvent de nous des humains pleins de faiblesse, d'immobilisme, et parfois de grande cruauté. Mais la France libre, l'Angleterre, la Russie, la Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, le Royaume de Yougoslavie et toutes leurs colonies d'alors formaient les alliés, ceux qui allaient lutter contre l'Axe et qui ont fini par mettre fin au projet d'une violente dictature mondiale. Il a fallu 5 ans de guerre ininterrompue pour que les alliés et les résistants réussissent à neutraliser l'attaque. Ils ont gagné. C'est cette victoire que nous fêtons ce jour, la fin d'une guerre impitoyable, déshumanisante. Le drapeau bleu-blanc-rouge a fini par retrouver ses couleurs et la France et les autres pays ont retrouvé leur intégrité. Cette guerre aurait fait 65 millions de morts dans le monde. Elle a créé des champs de ruines, des villes et des villages anéantis, affamés des nations. Ses conséquences ont gravement marqué les années qui ont suivi. Aujourd'hui, c'est la commémoration de ce jour de victoire. Un jour pour se souvenir que la France est une nation républicaine, grâce à tous ceux qui ont lutté pour qu'elle le demeure encore. Alors que le Covid empêche ces commémorations officielles pour rendre hommage à nos combattants, j'ai déposé ce matin un bouquet tout rose à Sceaux face à la statue métallique du général de Gaulle, cet homme d'exception. Et pour chaque résistant, et pour chaque soldat, et pour tous les alliés d'alors qui ont permis la victoire, j'ai remercié. Mon cœur a crié « Vive la France ! Vive les nations libres, autonomes ! Vive la fraternité ! Et que vive la paix !»